Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Merci de nous rejoindre dans RTL midi. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le grand carrefour de l'information de la mi-journée. C'est votre émission, 90 minutes pour tout savoir de l'actualité, pour comprendre et pour commenter. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Vos appels sur les sujets qui vous intéressent, c'est dès maintenant. C'est au 3210, 3210, le standard vous est réservé. Et vos messages nombreux attendus sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans l'actualité, Christelle, à l'heure du déjeuner, il faut savoir que Paul Pogba a faim.
Je veux vraiment, vraiment finir bien avec le sourire. J'ai vu des photos, c'était extraordinaire et on veut encore, on veut revoir ça et faire péter la France.
Faire péter la France dimanche, ça veut dire battre les Croates en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus sont motivés mais lucides. Les Croates, eux, veulent laver l'honneur perdu de 98. Et l'un des héros de France 98, Robert Pires, est l'invité exceptionnel d'RTL Midi. Il nous racontera ce 12 juillet d'il y a 20 ans. Nous parlera de son vécu, de Didier Deschamps et de ces Croates qu'il a croisés. Et nous comptons aussi sur vous au 32-10. Où étiez-vous ce jour-là? Séquence vintage avec vous et vos témoignages. Dans l'actualité, il y a aussi cette politique de la chaise vide. Les présidents des trois principales associations d'élus sèchent la conférence des territoires emmenée par Édouard Philippe. Naomi Muzanga, décédée d'une intoxication au paracétamol. La jeune femme l'aurait surdosée. C'est pourtant la substance la plus répandue. Est-on suffisamment informé sur ces dangers? Débattons-en au 32-10. Enfin, nous irons en Alsace, dans un tabac presse qui vient de changer le cours de la vie d'une jeune femme. Elle y a gagné 36 millions d'euros à l'euro-million. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
C'est le soleil qui fait jackpot.
Oui, retour du soleil cet après-midi et température en hausse, température estivale partout, 22 degrés, ce sera le minimum au Havre, 24 degrés à Lille, 26 degrés à Paris et La Rochelle, 29 à Nice, jusqu'à 33 degrés à Marseille. Quelques nuances quand même cet après-midi. On aura encore quelques passages nuageux sur la moitié nord, surtout près des frontières du nord, avec là des petites averses, notamment sur les Ardennes ou encore sur le nord de la Lorraine, et puis toujours de l'instabilité du côté des Pyrénées, avec des averses à caractère orageux en fin d'après-midi.
La météo avec Patricia, ce sera en version longue juste avant 13h, tout à l'heure, dans la foulée, tous vos rendez-vous, le Tout Info, la Bourse de Paris, un jour sur la Terre, une histoire, et Laurent Gérard obligatoire à 13h50. La question sur notre site rtl.fr concerne donc ces médicaments vendus sans ordonnance. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dangereux? Eh bien, vous dites oui à 63% sur notre site. Alors, vos appels dès maintenant pour en débattre au 3210. Et un premier coup de fil depuis Perpignan, coup de fil signé Evelyne.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les médicaments qui sont donnés sans ordonnance sont dangereux. Pour pas le citer, le Doliprane, qui est vraiment celui qui donne le plus de ravages au niveau du foie. Si j'ai un mal de tête, je m'allonge, je prends quelque chose de frais et ça passe. Mal de ventre, pareil. Donc voilà, il faut absolument se soigner naturellement.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et on retrouve nos bleus sur la piste aux étoiles. Ils connaissent désormais leur adversaire, la Croatie. Et les Français sont décidément passionnés par cette Coupe du Monde. 12 300 000 téléspectateurs ont suivi sur TF1 hier soir l'élimination de l'Angleterre. Ça représente un peu plus de la moitié des téléspectateurs. Ce matin, Umtiti et Pogba sont venus en conférence de presse dans leur camp de base à Isra, évoquer leur futur adversaire. Nicolas Georgerot, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur cette Coupe du Monde. Et vous les avez sentis bien décidés à faire oublier la finale perdue de l'Euro 2016.
Exactement, finale qui n'a pas été digérée par ce groupe. Paul Pogba venait pour la deuxième fois en conférence de presse depuis le début de cette Coupe du Monde. Il avait fait le show il y a quelques jours, le feu et la glace cette fois, ton sérieux, posé, pour expliquer notamment avec beaucoup de franchise comment les Bleus avaient abordé à l'envers le France-Portugal il y a deux ans.
Je pense à l'Euro, on pensait que c'était déjà fait. La mentalité, elle n'était pas pareille. Je veux pas mentir, c'est quand on a gagné contre l'Allemagne, on pensait que c'était ça la finale en gros. On s'est dit, bon, c'était gagné d'avance, c'était ça notre erreur. Maintenant, c'est pas pareil. On veut vraiment aborder ce match différemment et on veut vraiment aller la chercher et on va voilà, vraiment se concentrer, donner tout pour ramener cette coupe à la maison.
Les Croates qui n'ont peut-être pas le CV des équipes rencontrées précédemment par les Bleus, mais avec sans doute l'un des footballs les plus ambitieux et alléchants, Samuel Umtiti va croiser son partenaire au FC Barcelone, Ivan Rakitic.
On a su bien gérer nos derniers matchs face à de très grands joueurs et voilà, on va préparer ce match-là aussi pour pouvoir gérer des joueurs comme Luka Modric ou Mandzukic, après aussi Ivan Rakitic que je connais très bien. Ils ont une très belle équipe, à nous d'être sérieux comme on a su le faire sur les derniers matchs.
Umtiti qui a ajouté « Si on joue de la même manière, ça passera. La fraîcheur physique pourrait être décisive en raison des trois prolongations disputées par les Croates depuis les huitièmes de finale. »
Voilà pour les Français. Merci Nicolas Georgerot depuis Istra en Russie. Pour les Croates, quoi qu'il arrive, c'est un rendez-vous historique. Ce petit pays de 4 millions d'habitants n'avait pas fait mieux qu'une demi-finale en 98. La France avait alors brisé ses rêves. L'outsider arrive donc là pour l'épilogue. En finale, c'est vrai qu'ils ont l'équivalent d'un match de plus dans les pattes après trois prolongations. Mais ils sont rapides, Hugo Hamelin, rapides, organisés, ils lâchent rien. Hein.
Et surtout, voilà, ils ont de la ressource, c'est même leur principale qualité, ce mental d'acier, cette capacité à ne jamais, jamais abandonner, même quand rien ne leur sourit. Sur ces trois prolongations que l'on vient d'évoquer, ils ont marqué deux fois et lorsqu'ils n'y sont pas parvenus, comme contre le Danemark en huitième de finale, ils ont quand même réussi à obtenir un pénalty dans les dernières secondes. Alors oui, avec un jour de récupération de moins, 90 minutes de jeu supplémentaire, ils seront plus fatigués que les Français, c'est certain. Mais comme l'explique Ivan Perisic, buteur hier soir, le foot, ça ne se joue pas qu'avec les jambes.
Mentalement, on a été très fort hier soir. On a montré pour la troisième fois d'affilée que l'on avait du caractère. Ça prouve encore une fois le genre d'équipe que nous sommes. On va bien se préparer pour la finale, même si on est fatigué. La France est bien sûr favorite et il faut qu'on analyse bien leur jeu. Mais on aura nos chances dans cette finale.
La Croatie, un petit pays, mais un cœur gros comme ça, avec des génies comme Rakitic et Modric au milieu du terrain. Les Bleus devront faire attention. Il ne faut jamais vendre le maillot à damier avant d'en avoir triomphé.
Hugo Hamelin, et c'est comme si décidément on rejouait 98. Les revenants titre l'équipe ce matin pour saluer la qualification des Croates. Des Croates qui n'ont jamais digéré ceci.
Thuram qui va frapper. But de Thuram, le deuxième but de l'équipe de France. Crochet intérieur.
Alors pour célébrer 20 ans après le 12 juillet 98, on s'offre un champion du monde dans notre studio. C'est Robert Pires qui est par ailleurs consultant chez nos amis de beIN Sport. Bonjour Robert.
Bonjour messieurs dames.
Là quand vous entendez ça, c'est commentaire Christian Olivier. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute 20 ans après?
Bah, je pense un petit peu comme vous, quoi qu'il arrive, 20 ans après, des frissons, que des grands et des bons moments, même si ça paraît loin, mais je crois qu'un petit peu comme toute la population française et tous ceux qui aiment le football, c'est gravé à jamais dans nos mémoires. Et surtout, ce qui est beau, c'est que le plus important, c'est toujours d'écrire une histoire quand on appartient à l'équipe de France, parce que c'est un privilège, c'est un honneur de défendre les couleurs de son pays. Je disais tout à l'heure, c'est que ça avait, il y a 20 ans, une saveur particulière, parce que oui, on a décroché cette première étoile, mais parce que on a joué à domicile. Et quand on joue à domicile, et quand vous avancez dans l'aventure, ce qui est bizarre, c'est que vous recevez beaucoup, beaucoup d'énergie de la part de vos fans. Et c'est pour ça que c'est toujours un régal d'entendre ces commentaires.
Alors, Mbappé n'était pas né. Hein
non.
Pavard, Dembélé,
Lemar. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés.
ou encore Umtiti était tout petit.
Oui.
Cette génération est vraiment en train d'écrire son histoire.
Bah écoutez, l'équipe de France, elle a toujours été bonne et performante. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une vraie formation et à chaque fois, on peut s'appuyer là-dessus pour découvrir des nouveaux talents ou former des belles équipes. On dit toujours qu'il y a eu la génération Platini, ensuite celle de Zidane. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là, qui est en train d'éclore. Et nous, on a écrit une page de l'équipe de France, du football français. Maintenant, il faut la tourner. Donc, c'est pour ça que le relais est vraiment important. J'ai envie de dire qu'il y ait une passation de pouvoir. Aujourd'hui, elle a énormément de qualité. Le match le plus dur, c'est celui de dimanche. Savoir comment les jeunes joueurs vont gérer justement cette situation. Parce que quand on regarde un peu tous les noms, personne ne sait comment on peut gérer cette finale.
Si, Deschamps.
Un homme. Exactement. Le seul, honnêtement, le seul qui connaît un peu ce qui va se passer ou comment on peut préparer une rencontre comme celle-ci, c'est pour ça que depuis le début de la compétition, je dis que pour moi, l'homme fort, oui, c'est les joueurs, ça, on est tous conscients, et moi le premier, mais l'homme fort, c'est Deschamps.
Les Croates, alors, qu'est-ce qu'il faut craindre? Est-ce qu'ils seront vraiment fatigués? Parce qu'on est en train de dire là qu'ils seront crevés au bout du rouleau. Mais...
Non, vous savez pourquoi? Parce que je vous demande juste de vous mettre à la place des Croates. Imaginez-vous, voilà, vous êtes finale de Coupe du Monde. C'est une chance unique de décrocher le Graal. C'est petit pays, vous l'avez dit, 4 millions d'habitants. Mais attention, c'est l'ex-Yougoslavie. Et quand on connaît un petit peu la force de caractère de ces gens-là, ce sont des guerriers. Donc ils vont se battre jusqu'au bout. En plus, ça commence déjà. Les joueurs disent oui, vous savez, nous, la pression, on l'a pas. Le favori, c'est la France. Donc, on essaye de se détacher justement par rapport à l'événement. Mais
vous allez dire que c'est plus facile pour eux que pour nous, presque.
Ben nous on a beaucoup plus de pression.
On a plus de choses à perdre.
Oui, on a beaucoup plus de choses à perdre parce que on est favori, parce que depuis le début de la compétition, à chaque fois, on était placé dans l'équipe qui peut ou qui pouvait gagner cette Coupe du Monde. Donc eux, ils ont une finale à jouer, mais dans leur esprit et de la manière dont ils se préparent, ils sont en train de dire oui, mais nous, écoutez, on est le petit pays, on arrive là tranquille, mais on peut vous surprendre. Et puis vous l'avez dit, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Croates auront un esprit de revanche parce qu'il y a 20 ans, on les a éliminés et on leur a brisé le rêve en demi-finale de Coupe du Monde. C'était en plus si. Donc voilà, ça va être, je pense, un vrai combat.
Un vrai combat. Est-ce que nos Français peuvent se nourrir de l'engouement qu'il y a ici en France? Parce qu'ils sont loin, mais...
Oui, bien sûr, ouais, mais il le faut. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais, c'est que... c'est l'amalgame qu'il peut y avoir avec tout ça, tout ce mélange. Je crois que c'est important. Et il faut recevoir l'énergie toujours qui est bonne, qui est positive. Et la France aujourd'hui est en train de suivre un petit peu le même chemin qu'il y a 20 ans, même s'ils sont un peu loin. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui ils sont au courant de tout. Et surtout, je les sens motivés et lucides par rapport à ce qu'ils ont mal fait il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, ils vont se nourrir de cet échec.
Un plaisir de parler de tout ça avec vous, Robert Pires.
Merci, c'est gentil.
20 ans après, on a croisé plein de monde qui vous a vu ces dernières minutes. Vous êtes vachement bien encore. Hein. Faites encore ça du va, sport et merci. Tout. Toutes les filles sont amoureuses de vous, là, déjà, dans le studio.
C'est gentil, merci beaucoup. Mais disons que même à 44 ans, il faut toujours s'entretenir.
Merci, Robert Pires, invité de RTL Midi. On vous retrouve avec plaisir chez nos amis de Bein Sport, bien entendu. On veut vous écouter au 32-10. D'abord, sur cette finale, projetez-vous. Est-ce que vous sentez les Croates redoutables comme Robert? Il va falloir se méfier qu'ils sont les favoris. Et souvenez-vous de 98, il y a 20 ans, qu'est-ce que vous faisiez ce fameux 12 juillet? Où est-ce que vous étiez? Avec qui? Racontez-nous des belles histoires. Donc, séquence nostalgie et vintage. Vos appels dès maintenant au standard, c'est 3-2-1-0.
Dans un instant, le reste de l'actualité avec le meurtrier présumé d'Élodie Kulik qui sera renvoyé aux assises plus de 16 ans après le drame.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Il aura fallu 16 ans pour que la justice renvoie le meurtrier présumé d'Élodie Kulik aux assises. La jeune femme de 24 ans, directrice d'une agence bancaire à Péronne dans la Somme, avait été violée puis étouffée. Avant d'être tuée, elle avait appelé au secours les pompiers, un appel déchirant où l'on entendait derrière elle la voix de deux hommes. L'un des deux est décédé depuis dans un accident de la route. L'autre, Willy Bardon, sera donc jugé. Il a épuisé désormais tous ses recours, dont le dernier en cassation. Frank Hanson vient de rencontrer le père de la victime, Jackie Kulik, enfin soulagé que la justice aille au bout.
Pour moi, oui, c'est un réel soulagement. Ça fait quand même 17 ans que j'attends. Hein. J'en ai 68, j'ai passé quand même le quart de ma vie à attendre, hein, à espérer cette nouvelle, et j'en ai même pleuré. C'était dur. On ira au bout. J'aurais tenu parole. J'ai promis à ma fille et à mon épouse de l'amener aux assises, et maintenant, ça sera chose faite. Je ne me serais pas battu pour rien. Pour Elodie, c'est tellement important, il faut que justice soit rendue à ma fille.
Le drame des naufrages de migrants en Méditerranée, quelques semaines après la crise de l'Aquarius, Médecins sans frontières vient de dresser le bilan des 4 dernières semaines. Plus de 600 personnes sont mortes noyées. Dans RTL Midi, nous avons aussi décidé de revenir sur la mort de Naomi Moussanga, cette femme de 22 ans dont l'appel n'avait pas été pris au sérieux par le SAMU de Strasbourg. Elle est décédée d'une intoxication au paracétamol. C'est le résultat de l'enquête préliminaire. Du paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours qui a détruit son foie et entraîné une défaillance de l'ensemble de ses organes.
Alors pour aller plus loin et comprendre, nous sommes avec Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour.
Bonjour.
Le Doliprane, Monsieur Prudhomme, c'est le médicament le plus vendu en France. On découvre qu'il est dangereux et pourtant on ne se sent pas du tout informé là-dessus.
Ben oui, d'une part, il serait bien de ne pas parler de nom de marque, mais de parler du principe actif, ce qu'on appelle le principe actif, qui est le paracétamol. Or, oui, le paracétamol existe dans de nombreux médicaments. C'est la raison pour laquelle, quand on a des douleurs, il ne faut pas mélanger les médicaments et prendre des cachets comme ça toutes les 2 heures, parce qu'on risque effectivement des surdosages. Surdosages qui peuvent être dramatiques, puisque dans le cas du paracétamol, il y a une toxicité très importante pour le foie. Et quand on déclenche ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse, gravissime, le seul traitement est une greffe de foie. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de grave.
C'est grave.
Christophe Prudhomme, donc soyons concrets pour les auditeurs. Quelle est la dose de paracétamol à respecter chaque jour et quel espace entre deux prises ?
Eh bien, la dose est de 3 à 4 grammes par jour et 6 à 8 heures entre les prises. Et il ne faut pas donc mélanger des médicaments qui auraient des noms de marque différents mais qui contiendraient du paracétamol. Mmh. Ce paracétamol peut être à 300, 500 mg, 1 gramme dans chacun des comprimés. Donc, en cas de doute, il faut effectivement consulter les notices, voir quand on est en difficulté, on peut appeler son médecin traitant ou par défaut le centre 15 pour avoir un conseil.
Mais si ce médicament, et on vous croit bien sûr, est grave en surdosage, notamment pour les reins, pourquoi est-il en vente libre ?
Ah, la question de la vente libre et du prix des médicaments, écoutez, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est au pouvoir public. On a tendance à marchandiser la santé. La question, c'est que il manque quand même un étage dans notre système de santé, qu'est-ce qu'on appelle l'éducation du patient. Et l'éducation du patient, ça prend du temps. Il faut savoir que tout médicament a des effets secondaires. Les médicaments, ce ne sont pas des bonbons.
Oui, bien sûr, c'est une somme de bénéfices-risques. Mais vous qui représentez les médecins urgentistes, est-ce que vous voyez arriver fréquemment aux urgences des gens qui ont ce type de réaction sur le paracétamol ?
Heureusement, c'est pas très grave. C'est la raison pour laquelle le paracétamol est en vente libre. C'est-à-dire qu'on a pris des mesures. Il faut savoir que vous ne pouvez pas acheter... vous pouvez acheter plusieurs boîtes, mais chaque boîte ne contient au maximum que 8 grammes de paracétamol, c'est-à-dire la limite maximum en dessous de la dose toxique. C'est une mesure de santé publique qui a été prise il y a quelques années à la suite de suicides par paracétamol, en particulier en Grande-Bretagne.
Merci Christophe Prudhomme d'avoir été l'invité d'RTL Midi et nous attendons évidemment vos témoignages au 3210 si vous pratiquez l'automédication. Vous êtes médecin, pharmacien, patient, parlons-en tous ensemble.
Dans un instant, le Tour de France, on va rejoindre Christophe Paco et toute l'équipe évidemment à Brest. Départ de l'étape du jour à l'approche et on va voir les coulisses de ce tour comme tous les midis. Christophe, juste après ça.
RTL Tour de France 2018.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous face à la rade de Brest, inondée de soleil aujourd'hui. Rencontre avec un docteur en pleine forme, anecdote, coup de cœur, défi du jour, histoire de Bretagne. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2018.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous avec un vrai champion qui s'est illustré hier sur les routes du Tour de France. Bonjour docteur Simès.
Bonjour Christophe.
Michel, gros parcours hier quand même, hein?
Oui, bon parcours. Moi, j'ai eu la chance d'être invité pour faire les 20 derniers kilomètres. Quand on m'a proposé cette invitation, j'ai dit la Bretagne, c'est plat. Et ben, la Bretagne n'est pas plate. Il y a un moment, j'ai failli faire marche arrière parce que c'est
quand même. Mais au témoin d'un doute, le vélo, c'est bon pour la santé, docteur.
Ouais, c'est bon pour la santé. Après, c'est comme tous les sports, quoi. Il faut s'entraîner, surtout le vélo. C'est pas parce qu'on fait du sport. Moi, je fais beaucoup de sport en général, mais si on fait pas de vélo, on muscle pas les muscles qui nous permettent d'avancer sur une côte. C'est un sport génial parce que il est pas en pression. C'est-à-dire que si vous avez les genoux pourris, ce qui est mon cas, vous ne pouvez pas courir. Alors que le vélo, il est porté. C'est un sport porté, un peu comme la natation. Et donc, on peut se permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses à vélo. C'est pour ça qu'on voit autant de messieurs de 60, 70, 80 ans parfois, avec parfois un petit bedon, une petite bedaine. Ah. Non, je ne parle pas de vous, mais qui font du vélo. Ouais.
Et au niveau du fessier, ça va?
Oui, au niveau du fessier, il faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas non plus. Alors, au niveau du périnée, par exemple, qui est quand même, qui peut faire mal. C'est ça que vous appelez le fessier? Il faut que je vous donne un petit cours d'anatomie.
Je me renseigne.
Le périnée, c'est entre le, vous voyez ce que je veux dire.
C'est entre et entre.
Voilà, c'est entre les organes génitaux et l'anus. Et là, faut s'entraîner parce que moi, quand j'ai commencé le vélo, j'avais très très mal à cet endroit-là. On a une inflammation, etc. On doit se mettre de la crème. Et au bout d'un moment, il y a une petite corne qui se forme et puis voilà. C'est le fameux endroit de la troisième testicule chez les coureurs d'ailleurs.
Merci Michel, bonne route.
Merci Christophe, à toi aussi.
RTL chez vous.
Votre défi aujourd'hui, Olivia, c'est, voyez-vous, de décaler le départ de l'avion dimanche, parce que les coureurs aimeraient bien voir la finale de 17h. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bah oui, j'ai parlé avec quelques coureurs, dont Warren Barguil, et ils seraient très heureux que l'avion ait un petit peu de retard dimanche, parce que sinon ils vont louper la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Monsieur Prudhomme, faites quelque chose s'il vous plaît, parce que moi aussi je suis dans l'avion avec les coureurs.
À votre avis, à quelle heure part le deuxième avion ?
Ah, il y a un deuxième avion.
Il y en a trois. Enfin, en vérité, à quelle heure part le premier des trois avions ?
En plein milieu de la deuxième mi-temps.
Ils sont censés partir à 18h30. Après, on verra avec les contrôles, les créneaux, je ne sais pas. Faudrait pas qu'on nous fasse leur proche, les coureurs arrivent tard à l'hôtel. Hein ? Autrement, ce sera incompatible.
On est tous d'accord que quand même, on a tous envie de la voir, cette finale.
Tout le monde a envie de la voir. Ça c'est sûr et certain.
Qui s'occupe du vol? Quelle est la compagnie qui s'occupe du vol? Je vais les appeler directement.
Je vais pas
moi.
Vous répondre à la place des contrôleurs aériens.
Est-ce que s'il y a prolongation, on n'est pas bien nous hein?
Ah bah ça, s'il y a prolongation, ça c'est sûr. Si c'est allé jusqu'à la fin du temps réglementaire, ça doit pouvoir se faire. Mais après, ça, je n'en sais strictement rien.
S'il y a prolongation, on peut voir la compagnie et leur demander de mettre le match dans l'avion.
Oh, avec votre sourire, il n'y aura sûrement pas de problème.
Merci Christophe Prudhomme.
Donc mission
quasi relevée.
Ah non, à moitié réussi, mais pas mal, bien essayé.
En temps réglementaire, ça devrait passer. Après.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Et bonjour Laurent Jalabert.
Et bonjour Christophe.
Quel bonheur cette Bretagne. On part de Brest, on va au mur de Bretagne. À mur de Bretagne pour être précis, attention.
Bien sûr, c'est un mur, mais c'est aussi une localité. La question que je me pose à moi, c'est qui va faire le mur demain?
Vous l'avez fait souvent, vous.
Hein. Oh, quand j'étais petit, je faisais le mur. Ah, hein. Voilà. Mais il faut pas le dire à la radio, sinon je me fais attraper. Hein.
Alors, qui va s'échapper aujourd'hui?
Ah, je mettrais bien un petit billet sur un Français, hein, avec un casque jaune et un maillot bleu.
Ouh, un petit Alaphilippe?
Alaphilippe, ce serait pas mal. Alors, le dernier vainqueur à Mur de Bretagne, c'est un Français, Alexis Villermaux. Et donc, un autre Français, pour lui succéder, ce serait pas mal.
J'enregistrerai votre prono, on en reparle ce soir.
Dans le club Jalabert.
18h30
19h.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Et comme le veut la tradition de RTL chez vous, votre rendez-vous avec notre poète, notre historien du tour, Christian Laborde.
La sixième étape s'élance de Brest où le vélo est chez lui depuis 1891 et le tour depuis 1906. C'est en 1891 en effet que Charles Théron remporte la première édition de Paris-Brest-Paris. Quant au tour, né en 1903, il arrive à Brest le mardi 24 juillet 1906 en provenance de Nantes et Louis Trousselier l'emporte après avoir pédalé pendant 325 bornes. Brest-Mur de Bretagne est certes une étape plus courte, mais elle mène les champions droit dans le mur de Bretagne. Parlons-en de ce mur. Il s'applique à masquer son aspect infranchissable en se coiffant d'un accent circonflexe qui le transforme en adjectif et le ferait passer pour un fruit prêt à être cueilli. Il n'en est rien. Et il faut une sacrée pêche, celle d'Alexis Villermoz en 2015, pour attaquer dans Mur de Bretagne, cueillir la victoire au sommet après avoir balancé des prunes, des poires à des coureurs aussi modestes que Christopher Froome et Peter Sagan. On finit en compote à Mur de Bretagne.
Belle et grande journée sur la route du Tour. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
Et la joie de retrouver Christophe et Laurent Jalabert ce soir 18h30. La joie de vous informer que Robert Pires est toujours en studio, chers auditeurs et auditrices. Vous nous appelez au 3210 98 2018, le football. Il va parler avec vous pendant, allez, 10 bonnes minutes. Un plaisir, à tout de suite.
La météo, Patricia Charbonnier, les coureurs du Tour de France vont transpirer sous le soleil breton.
Oui, les températures repartent à la hausse hein, cet après-midi, après une petite parenthèse de fraîcheur pendant 48 heures. Température de saison cet après-midi jusqu'à 24 degrés à Lille, 25 à Nancy, 26 à Paris et La Rochelle et un maximum de 33 degrés à Marseille. Du plein soleil, on a encore quelques nuages quand même sur la moitié nord du pays, avec à la clé quelques averses cet après-midi, mais très localisées près des frontières du nord et toujours de l'instabilité entre le Massif central et les Pyrénées, avec là des averses à caractère orageux, mais uniquement sur le relief.
Et demain, plus chaud.
Plus chaud, les températures vont repasser au-dessus des normales de saison. 13 à 22 degrés pour demain matin, jusqu'à 34 degrés demain après-midi à Nîmes. 30 à Limoges, 28 à Paris et La Rochelle, 26 à Lille et 24 à Cherbourg. Toujours du plein soleil dans le sud avec toujours cette instabilité en montagne. Et sur la moitié nord, ce sera un petit peu plus nuageux, surtout dans l'après-midi, avec un tout petit risque d'averse entre les frontières du nord, le bassin parisien et les Pays de la Loire. Et pour ce week-end, ce sera chaud, avec encore un petit peu d'instabilité pour le 14 juillet sur un petit quart nord-est. Très très chaud dimanche, 30 degrés en moyenne sur la moitié nord et 35 dans le sud, mais moi je pense vraiment très très chaud dimanche.
Merci Patricia.